L'émission Venez à Jésus vous est présentée par les partenaires du ministère Jésus pour tous. Nous vous souhaitons une très bonne écoute.
Bonjour à tous, je suis Raphaël Mambou, que Jésus vous bénisse, qui que vous soyez, où que vous soyez. Le nom de cette émission est Venez à Jésus, c'est une grâce, c'est un honneur, c'est un privilège de pouvoir vous retrouver encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu pour partager quelques versets bibliques sur le thème, la parabole du Samaritain. Et nous avons toujours avec nous Jonathan Junior Mambou. Bonjour frère.
Bonjour et bonjour à vous qui venez de nous rejoindre.
Merci pour ta présence, merci pour ce temps de disponibilité, ce temps de sacrifice.
Amen.
Que le Seigneur te bénisse et te rende au centuple.
Amen.
Avant d'aller plus loin, je voudrais t'inviter, Jonathan, à baisser la tête dans la prière pour dédier le reste des 30 minutes entre les mains du Seigneur.
Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour ce temps merveilleux que tu nous accordes. Oui, Seigneur, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Laisse que, Seigneur, ce temps s'apporte la foi. Tu as dit, Seigneur, est-ce que quand le Fils de l'homme viendra, trouver notre prière et que tu trouves en nous la foi lorsque tu reviendras. Bénis ces instants et que cette parole apporte la foi dans la vie de ceux qui n'en ont pas. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.
Amen. La parabole du Samaritain. Luc 10, verset 30. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha, il banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à l'hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Jonathan, qu'est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui sur cette parabole du Samaritain?
Oui, cet homme qui était à Jérusalem et qui a choisi de descendre vers Jéricho, il avait pris la mauvaise décision et en descendant, il s'est retrouvé avec des brigands qui l'ont battu, qui l'ont roué de coups et qui l'ont laissé à demi-mort. Et là, dans cet état, il y a eu des sacrificateurs qui sont un sacrificateur qui est passé pour le sauver. En fait, qui est passé, qui ne l'a pas sauvé. Le lévite qui est passé également, qui ne l'a pas sauvé. Mais il y avait un samaritain qui est passé. Et c'est cet homme-là qui, lui, a donné de son temps, de son sacrifice pour sauver cet homme qui était tombé sur le chemin. Un peu pour dire, nous avons aussi dit ça la semaine passée, lors de l'émission précédente, que le sacrificateur, le lévite, n'ont pu faire la chose la plus importante, c'est-à-dire sauver la personne, parce qu'en fait, quand on regarde, on comprend bien que le samaritain, ce n'est pas un homme de la terre. Le samaritain, c'est un homme du ciel. Et ce samaritain-là, dont nous disons, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'en fait, c'est vrai en lisant la parabole. Cet homme-là était l'image de Jésus. Parce que Jésus-Christ, il est aussi l'image. Il est en fait, je veux dire, il se marie avec le samaritain, je peux le dire. Dans le sens où le samaritain, c'était des gens impurs pour les juifs.
Oui,
c'était des gens qui étaient issus des autres peuples.
Christ est devenu impur pour nous,
voilà.
Il est devenu péché pour nous.
Voilà, c'est dans ce sens-là que nous disons que Jésus est un samaritain. Et si nous disons que seul Jésus pouvait faire ce qu'il a fait pour nous, c'est parce qu'en fait, nous étions des pécheurs. Notre maladie, c'était le péché. Une maladie qu'aucun homme ne pouvait sauver. Une maladie qu'aucun homme ne pouvait ôter. Donc Jésus-Christ est le seul qui pouvait guérir les hommes. Et d'ailleurs, lorsqu'on regarde les personnes qui ont précédé Jésus, avant que Jésus ne vienne sur la terre, ces hommes-là, ils ont été des guides du peuple. Je vois par exemple les sacrificateurs. Hein, au temps de Moïse, il y a eu des sacrificateurs. Commençons par le sacrificateur Aaron. Aaron préfigurait en fait Jésus-Christ. Après Aaron, il a eu des enfants parce que les Lévites étaient nombreux et les fils d'Aaron ont continué le sacerdoce, mais tous n'ont pas apporté la vie, tous n'ont pas apporté le salut. Et tout ce qu'ils faisaient, c'était en fait une image de ce que Jésus-Christ allait faire. Par exemple, ils offraient des animaux, mais c'est leur sang, le sang des animaux, n'ôtait pas le péché, mais couvrait le péché. Ça, c'était, Christ n'est pas venu avec un animal particulier pour jouer ce rôle que faisaient les sacrificateurs. Non, Jésus-Christ a amené son propre corps et son propre sang. Donc, les sacrificateurs faisaient un travail qui montrait le véritable travail. Jésus est venu comme l'agneau des dieux qui ôte les péchés du monde. Et à part les sacrificateurs, je vois les rois. Les rois, à l'époque aussi, ont joué un très grand rôle, un rôle important en Israël, pour conduire Israël. Et je peux dire que Israël fait partie des seuls peuples qui a connu des rois qui craignaient Dieu. Oui, il y a eu des rois en Israël et en Juda qui craignaient vraiment l'Éternel. Chose que je ne pourrais pas dire aujourd'hui pour beaucoup d'autorités dans le monde. Beaucoup d'autorités dans le monde consultent les ténèbres. On a eu des rois comme David, on a eu des rois comme Salomon, des rois qui étaient des guides du peuple. Il y a eu également une autre catégorie, des gens sont les prophètes. Donc il y a eu les sacrificateurs, les rois, les prophètes. Les prophètes, par eux, Dieu a déversé beaucoup de messages. Dieu a sauvé des gens. Mais en fait, quand je dis sauver des gens, c'est par rapport à ce qu'ils disaient. Mais
aux circonstances voilà. De leur époque.
Oui, mais ce n'est pas qu'ils ont été des rédempteurs, non.
Il n'y a qu'un seul rédempteur.
C'est pour cela que quand on compare ces trois catégories des gens, on constate qu'ils ne pourraient jamais être comparés à Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est unique. Donc, il est la quatrième personne. Si je dis quatrième, c'est par rapport aux gens que j'ai cités. Premièrement, le sacrificateur, le roi, le prophète. Donc, il est, en fait, la quatrième qui vient jouer le rôle de sauver. Le rôle que les autres n'ont pas pu faire parce que les trois autres n'étaient que des guides. Je vais lire un texte. D'abord, avant de lire ce texte-là, Apocalypse chapitre 1 et chapitre 5, la Bible dit ceci. « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, n'est pu ouvrir le livre, ni le regarder. » En fait, en lisant déjà le verset 3, quand on dit personne, c'est-à-dire même les sacrificateurs, il ne s'est trouvé aucun sacrificateur capable d'ouvrir le livre.
Ni Abraham,
oui.
Qui est la plus haute personnalité dans la foi judaïque, dans la croyance judaïque. Ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, personne.
Ni Moïse. Et d'ailleurs, parlant de Moïse, vous verrez dans la Bible, je crois dans Hébreu, il est dit que Jésus-Christ est plus grand que Moïse. Au début là. Il est plus grand que Moïse. Pourquoi cette précision là? C'est dans Hébreu chapitre 3. C'est tout simplement parce que les Juifs ont donné une plus grande considération à Moïse, que l'auteur des Hébreux est venu confirmer que non, Jésus est plus grand que Moïse.
Écoute, dans Hébreu 3, verset 4, chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qu'il devait annoncer. Mais Christ est fidèle ou l'est.
Et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Ici, déjà en lisant, on dit qu'on nous présente un Jésus plus grand que Moïse. Plus grand que Moïse parce que même Moïse, tout ce qu'il faisait, ça préfigurait Jésus. Moïse parlait de Jésus. Et, hein, Jésus-Christ a même dit un jour, il a écrit de moi. Donc, toutes ces personnes-là, ces trois catégories que nous venons de citer, n'ont pas apporté le salut, la rédemption, non. mais ils enseignaient celui qui allait apporter la rédemption. Je continue Apocalypse. Et personne dans le ciel, quand je dis personne, ni les sacrificateurs, ni les rois, c'est-à-dire ni David. David aussi était une image. David préfigurait Jésus. David a dit des choses comme un prophète, mais il parlait d'une autre personne. Il a dit dans des psaumes beaucoup de textes, par exemple, je donne un exemple où David était en train de prier, je pense, disant « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais en fait, il ne parlait pas de lui. Il parlait d'une autre personne. Il dit « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite pour que je fasse de tes ennemis mes... »
Mon marchepied.
Il ne parlait pas de lui. Il parlait d'une autre personne. Parce que c'est cette personne-là qui a plus de primauté que eux. Les sacrificateurs, les rois, les prophètes. Ils sont venus simplement, ils ont parlé, mais ils parlaient de cette quatrième personne qui devait venir, Jésus. Et quand je parle de Jésus, c'est lui la seule personne qui pouvait sauver le Samaritain, en fait, qui pouvait sauver le pécheur. Le verset 4, toujours du verset du chapitre 5.
L'Apocalypse.
Oui. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. C'est ça un peu, hein, l'attitude du sacrificateur et du lévite. Ils sont passés outre. C'est-à-dire, ils n'ont même pas eu le temps de s'arrêter, hein, pour faire quelque chose. Ils sont passés outre parce qu'ils ne pouvaient rien faire. Dans le sens, hein, là j'insiste bien, dans le sens du rôle que Jésus-Christ devait jouer. En tout cas, les sacrificateurs ne pouvaient pas apporter le salut.
De toute façon, moi je suis même convaincu que quand ces messieurs passaient, quand ils ont vu ce pauvre monsieur par terre, à demi-mort, on va dire évanoui, il a perdu la connaissance, ils se sont certainement dit, il y a sûrement plein de choses qui se sont dites dans la tête, dont particulièrement, c'est un pécheur. Celui-là, si je le touche, il va me communiquer son péché.
Et c'est en fait l'attitude aussi qu'on voit aujourd'hui dans notre monde. Hein? Quand on est simplement, on n'est pas spirituel, et qu'on regarde le monde actuel, on peut se dire, non, qu'est-ce que je peux faire pour cet homme? On regarde même les parents qui se lamentent vis-à-vis de leurs enfants. Mon enfant est devenu un bandit. Mon enfant a changé. Hein? Et vous verrez, cet enfant, il est dans une famille où il y a tout. Où les parents sont bénis, ils ont l'argent. Je peux dire bénis matériellement. Ils ont l'argent. Mais je vois la joie de ce parent quand il rencontre un autre ami de ces garçons-là qui lui présente Jésus. Alors les parents viennent chez cet enfant-là et disent, non, en tout cas, parle à lui de Jésus, parce qu'en tout cas, nous, on a tout fait, mais ça ne marche pas. Vous voyez? Pourquoi? Parce que même les hommes de la terre, ils reconnaissent que malgré nos efforts, il faut la parole pour que la parole change nos enfants. Parce que seule la parole peut apporter ce que les hommes ne peuvent pas apporter. Hein? Parce que les hommes, ils peuvent apporter ce qu'ils peuvent apporter, mais il y a des limites. Mais la parole de Dieu apporte la vie. Lorsque la parole transforme quelqu'un, en tout cas cette transformation-là est palpable dans la société. Regardez Apocalypse toujours 5 verset 4. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre. Il a rompu le sceau. Pour ceux qui veulent savoir qui est ce lion de la tribu de Juda, qui est ce rejeton de David, lisons-le dans Apocalypse 22, au verset 16. Jésus a dit, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité de David. Virgule. L'étoile brillante du matin.
C'est extraordinaire avec la Bible. Elle s'explique par elle-même.
Oui, elle-même s'explique. Jésus s'est présenté, dit, moi, je suis le rejeton de la postérité de David.
Je suis le rejeton et la postérité, de David. L'étoile brillante du matin.
Donc, c'est lui. C'est lui qui pouvait simplement ouvrir le livre. C'est lui qui a vaincu pour ouvrir le livre. À la croix, il a écrasé l'ennemi. C'est pour cela que nous sommes contents, parce qu'il a vaincu pour nous. Aucun homme n'a vaincu pour nous. Aucun homme ne pouvait accepter de mourir pour un autre homme et ôter son péché. Mais Jésus, il est le seul qui est mort à la croix pour nous. Lorsque nous nous tenons devant Dieu, nous sommes justes. En fait, Jésus-Christ nous a apporté la guérison de l'âme. Nous étions malades. Notre âme était malade. C'est-à-dire nos vies n'avaient pas de vie devant le Seigneur, n'avaient pas de sens devant Dieu. Mais Jésus-Christ nous a donné la vie, la guérison de l'âme. Mais les prédécesseurs qui ont précédé Jésus, ils étaient en fait des guides du peuple. Hein, on dirait des enseignants conduisant le peuple vers la rencontre avec le Sauveur qui est Jésus. Je vais lire Galates chapitre 3, le verset 24, hein, pour un peu asseoir ce que nous disons. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Qu'est-ce qu'on veut dire ici? Ainsi la loi. En fait, quand on voit la loi, on voit Moïse. Moïse a donné la loi, les 10 commandements, mais aussi diverses lois. Hormis cela, par Moïse, il y a le livre de Genèse qui a été écrit, le livre d'Exode, le livre de Lévitique, le livre de Nombre, le livre de Deutéronome. Mais on dit tout ce que Moïse là a écrit, c'était un pédagogue pour nous conduire vers Jésus. C'est-à-dire tout ce qu'il faisait là, c'est ça nous préparait à rencontrer l'homme qui devait nous sauver. Mais eux, ils étaient les enseignants. Mais c'était pas eux les rédempteurs, c'était pas eux qui étaient venus pour sauver.
Tout à fait.
Ça, c'est une preuve claire, hein, que Jésus-Christ a accompli ce que ses prédécesseurs ne pouvaient accomplir. Il est vraiment le bon samaritain qui est venu apporter la guérison de l'âme. Je vais lire un autre texte. Matthieu chapitre 5 au verset 17. Regardez ce que Jésus dit. Jésus dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Voilà. Tout ce qui a été dit dans la loi, je viens maintenant donner à cette loi son vrai sens. C'est ce que Jésus voulait aussi dire. C'est-à-dire, ce qui a été dit dans la loi, il le disait, mais en fait, il le disait pour moi. Il le disait pour moi. Voilà. C'est pour ça que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Oui, la parole de Christ englobe tout ce que Moïse a dit. Englobe tout ce que les prophètes ont dit. Donc tout ce qu'il disait, ça conduisait les gens vers le véritable Samaritain, qui est Jésus-Christ. Mais tous les autres dont nous avons cité, les sacrificateurs, les lévites, les sacrificateurs, les rois, les prophètes, ils n'étaient que les guides du peuple. Mais la quatrième personne, c'est Jésus-Christ que nous présentons comme le bon Samaritain. Et ceci me fait penser à la création. Tu sais, le quatrième jour, Dieu a créé le soleil. D'accord. Il a créé les luminaires.
Okay.
Or, Jésus, on l'appelle le soleil de la justice.
L'étoile brillante du matin.
Voilà. En fait, il est vraiment le soleil. Parce que quand on a créé le soleil le quatrième jour, c'est aussi une façon de montrer que le trois jours là, précédent, il n'y avait pas de soleil. C'est-à-dire, les personnes qui ont précédé avant, si je peux le marier avec ce que je dis, il n'y avait pas de soleil, mais le quatrième jour, le soleil est venu. Il est venu apporter la guérison de l'âme. Oui, si tu peux le lire.
Genèse 1, verset 13. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et que les luminaires et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et ce fut ainsi.
Voilà, le quatrième jour, le soleil a été créé, et ce soleil préfigurait aussi notre Seigneur, qu'on appelle le soleil de la justice, c'est-à-dire un jour, le soleil va se lever sur cette terre aussi. Il s'est levé comme un agneau, comme un être faible, c'est vrai. Mais un jour, il va se lever vraiment sur cette terre pour régner. Parce que tu sais, le soleil pique. Hein? On a du mal à fixer le soleil avec notre regard. Ce sera aussi comme ça quand il reviendra pour régner sur la terre. Eh bien, les méchants auront du mal à regarder. Ce sera difficile parce qu'il régnera. Aujourd'hui, le Seigneur ne règne pas. même quand il était sur la terre.
Du moins, il règne sur, dans nos cœurs.
Oui, dans nos cœurs, précisément dans l'Église.
Dans l'Église.
L'Église qui est le corps de Christ. Mais dans le monde, Jésus ne règne pas. Même sur la terre, il n'a pas régné. S'il devait régner, on ne pouvait pas le tuer. Hein? Et il a même dit à Pilate, il a dit clairement à Pilate, il dit « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi. » Voilà. Donc, mais un jour il régnera. Il va régner tel que les autorités du monde ne pourront rien faire. Quelqu'un ne peut pas croire à ces choses, comme on dit. Actuellement, c'est l'Union européenne qui décide, ce sont les Amériques qui décident. Mais bien aimé, la Bible a dit que bientôt le Seigneur va régner sur la terre et tous les regards seront tournés vers lui. Ce sera comme ça. Tous ces gens sont venus avant, personne n'a pu réaliser ces choses. Ils enseignaient qu'il y aura un homme qui va venir faire ce que eux n'ont pu faire. Jésus l'a confirmé. Jean chapitre 5, versets 46 à 47. La Bible dit ceci. Ça c'est Jésus qui dit. Je commence au verset 45, Jean 5, 45. « Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. » Ça, c'est Jésus qui dit. C'est-à-dire que Moïse, quand il écrivait Genèse, même quand on parle qu'on a créé le soleil le quatrième jour, en fait, il parlait de Jésus. Quand il a écrit Exode, il parlait de Jésus. Quand il a écrit Lévitique, il parlait de Jésus. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Jésus nous confirme que Moïse, sans le savoir peut-être, parler de Jésus, préfigurer le roi des rois. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, c'est lui le bon samaritain. C'est lui qui était venu pour sauver le pécheur, pour ôter le péché de l'humanité. Jean chapitre 1, verset 45. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. » Vous voyez? C'est-à-dire, elle et Moïse et Aaron et les sacrificateurs, on ajoute « et les prophètes ». Ils ont parlé de qui? De Jésus. Et ce qui est encore merveilleux, les disciples de l'époque savaient que tout ce que Moïse écrivait, tout ce que et les prophètes disaient, préfigurait un homme qui allait venir. Et ils attendaient cet homme. Je ne sais pas si nos bien-aimés attendent aussi de rencontrer Jésus. Je parle de ces hommes qui ont quitté Jérusalem et qui descendent à Jéricho. Mon souhait serait qu'ils puissent réaliser que Jésus-Christ, il est plus que tous les hommes. Plus que tous les hommes de Dieu que nous sommes. Cette parole que nous prêchons, c'est lui Jésus. Jésus, c'est cette parole que beaucoup de gens n'aiment pas lire. Ils n'aiment pas lire la Bible. La Bible dit « Au commencement était la parole ». La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Bien aimé, la vie ne se trouve ni chez les sacrificateurs, ni chez les rois, ni chez les prophètes, mais la vie se trouve dans la parole. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. C'est très important. Rejeter la parole, c'est rejeter la lumière. Rejeter la parole, c'est rejeter la vie. Voilà. Nous avons, fait-on parler, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Hébreux chapitre 10, verset 7. Je lis encore ce verset qui montre que Jésus est vraiment l'homme qui devait venir pour nous sauver. Si nous parlons aujourd'hui avec assurance, c'est à cause de cet homme-là. Alors j'ai dit, voici je viens. Je commence au verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Ici, en fait, c'est un verset qui présente Jésus avant de venir même dans le sein de Marie. Il dit clairement, il dit, tu n'as voulu ni ça, ni pouvais pas apporter la vie.
Tout à fait.
C'est moi C'est mon corps qui devait sauver. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. En tout cas, pour ton péché, mon frère, il faut un seul sacrifice. Pas celui du sacrificateur ni du lévite. Ne trompe pas. C'est le sacrifice de Jésus. Alors j'ai dit, c'est-à-dire moi Jésus, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Quel est ce livre? La Bible.
La Bible.
Dans la Bible, il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. C'est très important. Je bénis beaucoup Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Je bénis beaucoup Jésus pour ce qu'il a fait pour moi. Parce que en faisant ce qu'il a fait dans nos vies, il nous a ouvert le chemin pour le ciel.
Mon frère, ma sœur, c'est vraiment un message important. C'est vraiment un message, j'allais dire, capital. Ma prière est que ce message que vous êtes en train d'entendre en ce moment produise des fruits en abondance pour l'éternité. Jésus-Christ est le seul qui puisse nous sauver du péché. Le sacrificateur ne peut rien. Le pasteur ne peut rien. Le prêtre ne peut rien. L'évêque ne peut rien. Le super-évêque ne peut rien. Le très-très-très-très-très-évêque ne peut rien. Seul Jésus-Christ peut vous sauver de votre péché. Dans cette parabole, un des aspects du sacrificateur et du lévite est qu'il est dans l'incapacité d'aider cette personne. Il est dans l'incapacité de vous aider. Seul Jésus-Christ peut vous aider. Et il frappe à votre porte ce matin, cet après-midi, ce soir, et il vous dit, ce message est pour vous. Ouvrez-moi la porte de votre cœur. C'est ce que Jésus-Christ est en train de vous dire aujourd'hui. Car il est le seul qui puisse vous sauver. Si c'est votre désir, si c'est votre prière, baissez la tête et répétez ces simples mots après moi. Dites, Père éternel, au nom de ton Fils Jésus-Christ, me voici devant toi. J'ai entendu ton message, j'ai entendu ton appel. Je demande pardon pour mon péché, je demande pardon pour ma rébellion, et je demande à ce que Jésus-Christ entre dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Merci Père d'avoir envoyé un sauveur pour moi. Merci de m'avoir aimé alors que je n'étais pas aimable. Merci d'avoir pardonné mes péchés. Merci de m'avoir purifié avec le sang de Jésus-Christ. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Si vous avez fait cette prière, croyez que par la foi Dieu vous a entendu. Je suis Raphaël Mambou et le nom de cette émission est Venez à Jésus. Nous nous retrouvons la fois prochaine. Toujours sur le même thème, la parabole du Samaritain avec Jonathan Junior Mambou.
Amen.
Que Jésus continue de vous bénir, que Jésus continue de vous garder. À la fois prochaine.
À la fois prochaine et que Dieu vous assiste, vous aide à rester à Jérusalem.
Amen.
Amen.
L'émission « Venez à Jésus » vous a été présentée par les partenaires du ministère Jésus pour tous. Pour nous joindre, appelez-nous au plus 243 819 910 910 ou visitez notre site internet www.jesuspourtous.org.